Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite bien le bonjour ou le bonsoir à votre guise. Bienvenue dans l'émission Entre nous. N'est-ce pas qu'entre nous, on se dit tout. J'ai intitulé le sujet de l'émission d'aujourd'hui « Le sport, une supercherie, un effet de mode, un simple commerce, qu'est-ce que le sport ?» et la gouvernance du sport au Maroc. En attendant de donner la parole à mon invité, Marouane Bouchiri, jeune Marocain de 32 ans, chercheur en management et gouvernance du sport, je vous fais part de mon édito. Et le sport, un mot à lui seul sportif, en ce sens qu'il répond de non et sans attendre, à une connotation ne peut plus agile, à la musculature saillante, matinale, passe-partout, aux aguets d'une barrière à sauter de tout le long de nos fainéanties, de nos procrastinations, de notre léthargie à n'en plus voir le bout de son quant à soi. À quoi bon sursautent les uns de nerfs économes, à la langue gaillarde? À quoi bon nous charger de peines de forçat, de sueurs inutiles, de temps mangé à la sauce du superflu, alors que nos heures sont de facto comptées, que nous nourrissions un appétit sans nul pareil pour roupiller, nous gaver de séries jusqu'à nous pincer l'œil d'un rêve sans effort? Des adeptes de la loi du moindre effort, des épicuriens à la quête de plaisir au moindre coût, de ceux qui s'échinent à vous rajouter une couche, la mêler à votre porosité, votre permissivité, qui risque de vous ranger de leur côté, un côté qui a un nom, on ne vit qu'une fois. Faut-il se méfier, redoubler de méfiance, pour les plus sceptiques, vis-à-vis de ces formules aphoristiques, qui n'auraient de charme que leur concision, leur locution simplette? Serait-ce de par ces langues allégoriques du verbe fourcher, pour attraper le fil de nos cabrioles, tremper notre plume sportive pour l'occasion dans la vitesse et la confusion, pour faire montre d'un attribut recherché, tant applaudi par ceux qui auraient la science infuse, celui de la suite dans les idées? Revenons sur nos pas, sur cette couche que nous avions évoquée et oubliée ci-dessus, cette couche tenue, soutenue par ceux qui tiennent en horreur le sport. Qu'est-ce que le sport? À les entendre, serait de l'ordre de l'hérésie que l'homme avec une grande hache, loin de s'amuser à cultiver son corps pour sa seule musculature, se tenait à l'utilité de la chose, au bois qui l'en tire, une activité qui, par ricochet, le maintenait en forme, qui serait de l'ordre de la caricature, de la raillerie que de donner dans des exercices redondants, sans nulle autre finalité que de bomber son torse, remédier à la courbure de son biceps, bref. Serions-nous en train de fausser la donne, de s'astreindre à la forme, à la devanture, à la façade, pour oublier l'utilité, le nécessaire, comme ce qui se passe dans moult choses? Puis il en est d'autres, de ceux qui prônent, dans la foulée du bien-être, de la qualité de vie, de la longévité, les bienfaits du sport, ceux-là, à l'instar de leurs contestataires, ne tarissent de formules tirées sur les volets grecs et philosophiques. Esprit sain, dans corps sain, vous accable-t-on jour et nuit? De ces orthodoxes à cheval sur le sport, sacralisés de par l'acharnement de leur volonté. Alors déjà, qu'est-ce que le sport? Le fameux « de quoi s'agit-il » qu'on perd souvent de vue. À quoi cela sert en vrai, si tant est que l'on puisse cerner sa portée de part d'âme science qui s'y mêle, curieuse et indiscrète, à notre grande attente? N'est-ce pas que la science se mêle de tout, que son seul silence nous surprendrait? Puis, qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans? Que penser de ces jeunes sportives morts dans la fleur de l'âge? Le sport serait-il, et contre toute attente, mauvais pour la santé, une supercherie, sinon à supposer qu'il soit bénéfique? Comment renforcer son assise, lui fournir plus de chair et de muscles à travailler, sculpter? Si oui, quels sont ses travers, puisque nulle chose n'en sort indemne? Le sport est-il un simple effet de mode? Va-t-on se réconcilier avec la bedaine, la nature, dans ses débordements de graisse et de rire? Puis, je vais encore vous étonner, mais qui a inventé le sport? Comment le sport fait les choux gras des industriels pharmaceutiques? Avec nous aujourd'hui, Marouane Bouchiri, chercheur en management et gouvernance du sport. Alors, avant d'attaquer le sujet de front et avant de passer aux questions essentielles, je vais vous demander une petite présentation de vous.
Je suis Marouane Bouchiri, je suis un jeune Marocain âgé de 32 ans. Je suis chercheur en management et gouvernance du sport à la faculté des sciences de l'éducation de Rabat.
D'accord, très bien. Alors maintenant, on va poser peut-être une question qui n'est pas habituelle. Moi-même, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, tiens, puisque le fameux « de quoi s'agit-il » qu'on perd souvent de vue, qu'est-ce que le sport, hein? De, oui. beaucoup se retrouvant surpris à poser cette question de définition. Mais en vrai, qu'est-ce que le sport, puisqu'on souvent on oublie l'essentiel? Qu'est-ce que le sport?
Donc, avant de répondre à votre question, je vais vous partager une belle citation d'Albert Camus. Donc, il n'y a pas un endroit où l'homme soit plus heureux que dans un stade, ce qui explique que la place grandissante du sport dans notre société aujourd'hui. Et parce que ce secteur-là, il ne cesse de s'agrandir et d'envahir notre vie quotidienne de tous les jours. Donc, qu'est-ce que le sport? Donc, cette notion du sport fut toujours volatile et il y a des recherches académiques et scientifiques qui tentèrent d'en préciser le sens. Et finalement, ils n'ont pas pu s'accorder sur une définition satisfaisante. Donc, c'est un terme tiré de l'ancien français de sport qui signifie amusement, divertissement. Puis, il s'exporte en Angleterre dans le 15e siècle pour signifier passe-temps. Donc, et puis, c'est en 1863 qu'en Angleterre, le terme sport, donc, il prend son effet. Et il s'est officialisé donc en 1894 par Pierre de Coubertin. C'est celui qui a créé, inauguré le CIO, le Comité international olympique.
D'accord, très bien. Alors vous faites bien de parler de littérature, d'Albert Camus. Je suis peut-être, moi, à mon niveau, peut-être bien placé, puisque mon édito, il a versé dans tout ce qui est de littéraire. Vous faites bien de parler d'Albert Camus, donc, et sa définition, ou bien son allusion littéraire au sport comme, pas que comme phonème, aussi comme mot, comme vous avez dit. En cours plusieurs, on va pas dire en courir, mais est sujet plutôt à des langues diverses, puisque vous avez parlé d'un problème de définition. Et moi, je me dis que peut-être pour ce qui est de la définition du sport, c'est une définition, si on peut oser l'expression, un peu sportive, puisqu'elle
Sportif.
fait vite de changer d'un temps à l'autre. Vous avez
Oui.
parlé de distraction, et puis voilà,
Mais
de
j'ai une
passe-temps.
autre définition
Oui,
pour
allez-y.
que nos chers auditeurs et nos auditrices puissent se forger une idée sur ce que le sport, d'un point de vue académique. Le sport, c'est l'ensemble des activités physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant lieu d'une manière générale à une compétition pratiquée selon certaines règles. Donc, il y a la codification, il y a l'institution, il y a la compétition. Ces trois ingrédients, ils sont essentiels pour qu'une activité soit reconnue comme sport.
Très bien. Alors,
D'accord?
peut-être que moi, je me dis aussi que le sport relève tellement de la sphère pratique, pragmatique, que l'on peine à mettre un mot dessus, puisque le sport, il est fait plutôt pour être pratiqué que pour être pensé. Je ne sais pas si peut-être qu'il y a même des philosophies de sport ou bien que des littératures ont été faites là-dessus, mais je pense que si les gens ne se posent pas beaucoup cette question, c'est qu'ils se disent enfin que le sport, on le pratique. Les gens, ils se réveillent le matin, ils vont faire leur footing, ou bien ils vont faire leur séance de foot avec leurs amis. Ils vont pas penser à donner une définition
C'est vrai.
exacte à ce qu'est le sport. Alors, on va passer directement à notre deuxième question, à moins que vous ayez un commentaire à faire.
D'abord, j'ai un petit commentaire.
Oui?
Donc, je vais vous donner un état des lieux sur notre pays, donc propre à notre pays, concernant le sport ou la politique sportive. Donc, le Maroc, il fait employer 240 000 personnes de manière directe et indirecte. Il génère, l'activité sportive, il génère 1% du produit intérieur brut. Donc, et on compte 337 400 licenciés, dont 66 300 femmes. Donc, c'est un nombre chétif. Il représente 15% de la population marocaine par rapport à ce qui se fait en Égypte, en Tunisie. Par exemple, en Tunisie, il y a 150 000 licenciés. Regardez la différence, c'est une grande différence de taille. En Égypte, il y a 1 million de licenciés. Donc, l'Égypte, donc, il a à peu près 1680 clubs sportifs.
D'accord.
Donc le Maroc, il est en deçà de.
Alors, si je comprends bien, est-ce qu'on peut oser dire que bon, le Maroc, ou bien que le sport au Maroc, c'est se tromper d'abord que de dire que le sport n'a pas sa place, mais est-ce qu'il ne jouit pas de la considération qui lui sied? Est-ce qu'on ne porte pas un regard assez attentionné sur le sport pour qu'il se juge justement à cette place qui lui revient? C'est-à-dire que le sport, peut-être que vous parlez des licenciés, c'est-à-dire je comprends bien que c'est des gens qui ont eu leur licence en très
En
bien.
pratique.
D'accord? Donc, est-ce que le sport n'est pas pris au sérieux? Est-ce que pour les gens, le sport ne correspond pas à une discipline académique dans leur tête?
D'abord, au
Qu'est-ce qui se
Maroc,
passe dans la tête
au
des gens,
Maroc, on ne
à
sait pas
votre...
de quel sport ça, on veut. l'État, donc, il piétine dans ce sens. Est-ce qu'il veut un sport d'élite? Est-ce qu'il mise sur lui? Et c'est le cas aujourd'hui, tout le monde pense, et ces stratégies donc, laissent croire que l'État il souhaite aller dans ce sens pour promouvoir le sport d'élite. Alors, c'est faux. Donc, il y a le sport de masse qui est la base. Donc, l'État n'encourage pas la pratique sportive de masse et c'est la pratique, c'est le sport de masse qui démocratise le sport en général et qui développe parce que c'est vu comme un tremplin vers le développement du sport national, en grosso modo.
D'accord, très bien. Alors, j'aime bien la réponse que vous avez fournie. Vous avez parlé de sport de masse, de sport d'élite, ça on va y revenir. Mais je vais reformuler ma question pour que je sois peut-être plus précis dans ma démarche. Je vous demandais, c'est-à-dire que la question que j'ai posée par rapport aux gens qui sont licenciés, qui ont fait leurs études en matière sport, quel est leur mindset, si tant est qu'on puisse user d'un mot anglophone, voilà, pour dire quel est leur état d'esprit face à cette, on va pas dire spécialité, ou bien on va dire à cette orientation sportive. Pourquoi, selon vous, les gens ne s'orientent pas envers ce cursus-là académique et sportif? Pourquoi il n'y en a pas assez?
Peut-être une confusion entre nous. Les licenciés, ça ne veut dire pas les bachelors, c'est-à-dire les personnes qui suivent leurs études à la faculté ou en université. Les licenciés en sport, ce sont les personnes qui appartiennent à des clubs qui participent à des compétitions, que ce soit locales, nationales ou continentales. C'est ça, les licenciés. Donc, on va parler du volet de la formation, du capital humain après. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est-à-dire la place, comme vous avez déjà évoqué, du sport au sein de notre pays. D'abord, le sport, il
avance. Est-ce que vous pouvez d'abord répondre à ma question? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui, après leur bac, se disent, voilà, nous, on va s'orienter... On va prendre le sport comme cursus. J'imagine que vous êtes en contact avec les jeunes de votre âge et puis vous avez eu votre parcours avec des gens qui ont fait la même chose que vous avez faite. Alors, dites-nous, quel est leur état d'esprit et aussi pour les jeunes qui viennent et qui suivent peut-être ce cours-là. Est-ce qu'ils se disent que ça vaut la peine, que le sport, ça vaut la peine comme étude ou pas? Est-ce que les gens sont plutôt méfiants, sont partants? Comment les situez-vous?
Maintenant, je ne peux pas généraliser. Il y a des gens, il y a des élèves, donc, des jeunes gens, donc, qui estiment que le sport, c'est un avenir pour eux, constitue un avenir pour eux. C'est un atout pour eux. Il y a d'autres qui ne font pas confiance aux activités physiques, au sport, à notre sport national, en grosso modo. Donc, parce que comme vous le savez, donc, au Maroc, l'État il privilégie certains sports au détriment des autres. Parce que, comme vous le savez, le foot, c'est le sport roi, c'est le sport le plus populaire au monde. Et l'État, il mise bien sur lui, il mise aussi sur l'athlétisme, sur le golf et le tennis. Ce sont des activités bien déterminées et qui constituent, comment dirais-je, la palette du gouvernement. Alors, par contre, il y a des centaines des activités qui sont oubliées, marginalisées.
D'accord. Mais est-ce qu'on peut pas dire que...
Vous pouvez voir ça avec le nombre très réduit des fédérations. Nous avons 46 fédérations au Maroc. Alors, en France, il y a 114.
D'accord.
Donc, on ne tient pas compte des autres activités. Donc, on se concentre uniquement sur le foot, l'athlétisme, et le tennis et quelques autres activités.
D'accord. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'État ne fait que répondre à une loi, la loi de tous connue, la loi qui répond à l'offre et la demande, et de dire, voilà, du moment qu'on a une masse, qu'on a une population qui est plutôt attirée par le foot, ce sport roi, comme vous l'avez nommé, est-ce que ce n'est pas quelque part légitime de dire que voilà, on va donner un coup de pouce supplémentaire au sport et on va miser que sur ce qui marche? Ou bien vous pensez que l'État l'a fait erreur et qu'on doit, au même titre que le sport roi ou le sport le foot, hein, pour le nommer, on doit de même donner un coup de pouce aux autres activités, aux autres...
Et certes, l'État ne devra pas donc se limiter au football, donc il doit donc élargir sa vision pour contenir toutes les autres activités en même temps. Mais puisque le foot il est toujours en tête de peloton sportif, comme on dit, il doit essayer de le développer davantage parce que c'est la FIFA, comme vous le savez, c'est une grande instance qui a de l'influence, même plus que certains États. Donc, il a de l'influence politique, économique. Donc, il génère des chiffres d'affaires, des recettes en milliards de dollars. Donc, ça excède parfois les budgets de quelques États africains.
D'accord. J'avoue que nous sommes un peu évadés par rapport au tracé des questions que j'avais pensé, mais grand bien nous fasse. Nous avons profité, vous et moi, de quelques idées par-ci par-là.
Non,
Moi,
il n'y
je
a pas de
souhaiterais
souci.
revenir à cette. Bon, nous avons évoqué en bref ce problème de définition du sport. Bon, c'est très bien, distraction, passe-temps, après ça c'est plus académisé, je veux bien. Là je vais passer à un autre volet, le fait de, je ne sais pas si on peut tenter le verbe ainsi, scientiser ou bien, quand on parle de sport et de science, à quoi cela sert scientifiquement parlant? Qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans le sport?
Parce
Est-ce
que
que c'est pas, est-ce qu'on n'accole pas, je ne sais pas si c'est à juste titre, à tort ou à raison, est-ce qu'on n'accole pas un peu, comment dire, de trop, ou bien de manière inadéquate, inachevée, la science au sport? Alors, qu'est-ce qu'il y a, pour ramasser ma question, qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans le sport?
je peux donc ressembler votre question. Un point d'intersection. Le sport constitue un creuset où se rencontrent plusieurs disciplines scientifiques. D'abord sociologique, physiologique, biologique, donc économique aussi. Maintenant, on parle de l'économie du sport. Donc, il y a plusieurs recherches, plusieurs courants scientifiques qui tombent dans notre activité sportive. Et d'ailleurs, les bienfaits de l'activité physique. Donc, en matière sanitaire, ils sont avérés, se sont avérés aujourd'hui. Parce que le sport aujourd'hui, donc, il permet de réduire le risque de mortalité et de maladies cardiovasculaires, de cancer de sein, de côlon. Donc, il permet de lutter contre le diabète et les maladies métaboliques.
D'accord, très bien.
Et aussi,
Alors,
il permet d'éliminer le stress, les dépressions. Donc, et de façonner la confiance en soi et l'estime de soi chez les jeunes pratiquants. Donc, c'est un vecteur d'intégration sociale et d'ascension sociale pour les gens qui sont licenciés, qui intègrent les groupes. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité serait le quatrième facteur de risque de mortalité à l'échelle mondiale, après bien sûr l'hypertension, le tabagisme et une glycémie trop élevée. Donc, c'est l'OMC qui a reconnu l'utilité scientifique du sport et ses bienfaits pour la santé.
Alors très bien, moi je veux bien vous concéder cette part de réponse et dire que oui, le sport il a ses bienfaits, comme je l'ai mentionné d'ailleurs dans mon édito, mais dans un autre pendant, j'ai dit que avoir des bienfaits, je le veux bien, mais nul ne sort indemne et que
C'est vrai.
le sport doit avoir aussi ses côtés desquels on doit peut-être se méfier. Puis je vais vous faire part de quelque chose. Hier, dans la voiture, j'écoutais la radio. On disait que pour ce qui est des commotions cérébrales, un sportif, surtout on a parlé du foot, donc il s'agit bien là de foot, les sportifs, de par les coups de tête qui font, je dirais pas ravage, mais qui sont pratiqués dans leur. Dans ce sport-là, on court de 3 à 3 fois et demi plus de risques de commotion cérébrale qu'une personne normale. Alors ça, pour revenir à ma question et dire que y a même des jeunes sportifs qui sont morts dans la fleur de l'âge. Et ça, je voudrais bien que vous nous donniez un peu un aperçu sur cette chose-là. Alors, pour dire, est-ce que le sport serait-il mauvais pour la santé?
Non.
À quelques exceptions
À
près.
quelques exceptions, parce que ces bienfaits prennent le pas sur les risques minimes et éventuels que peut provoquer le sport, surtout chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et les personnes asthmatiques Et surtout, il y a un problème de dopage. Ceux qui s'administrent les produits dopants, donc ils sont exposés à des risques de mortalité à tout moment.
Alors, vous pensez que c'est ainsi qu'on peut expliquer de ces jeux sportifs?
Je peux illustrer ça par un cas. Donc, en 1960, aux Jeux olympiques de Rome, un coureur cycliste, un Danois, Enmark, il a trouvé la mort parce qu'il s'est administré donc, un produit dopant. Et il a couru presque 100 km. Donc, il a trouvé la mort grâce à ça. Donc, ce sont des produits chimiques. Donc, ils sont très dangereux pour la santé.
D'accord. Est-ce que vous pensez que ces sportifs-là font en taxer ou bien font de ces pratiques-là de leur propre chef ou bien que c'est quelque chose qu'on fait en cachette et que peut-être qui est recommandé par un coach ou par un autre? Est-ce que vous pensez que ces sportifs-là, morts dans la fleur de l'âge, s'administrent eux-mêmes de ces produits dopants ou que c'est quelque chose de nocif qui est organisé en cachette?
Oui, parce que, comme vous le savez, le dopage est maintenant, c'est devenu culture. Donc, c'est une monnaie courante au sein des grandes instances sportives et des grands clubs, parce que tout le monde cherche la performance. Et pour qu'il y ait du spectacle sportif, il faut qu'il y ait de la performance. Et pour avoir de la performance, la plupart des sportifs, ils recourent à ce genre de pratique malhonnête qui est le dopage. Et donc, cette guerre, elle a commencé durant la période de la guerre froide entre le clan de l'Occident et l'Union soviétique. Et c'était les Russes qui étaient les premiers donc, à fabriquer, qui avaient des laboratoires très sophistiqués à l'époque, qui fabriquaient ces produits dopants pour quoi faire ? Pour s'imposer sur la scène internationale sportive, pour décrocher plus de médailles et pour gagner en leadership.
D'accord. Alors, vous avez évoqué un côté important, je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le sport, que pour le sport, non pas, je ne vais pas dire qu'il suffit de se donner en spectacle, mais il y a ce côté-là. Est-ce qu'on est passé à côté de l'essentiel? Est-ce que le sport aujourd'hui est une devanture, est une façade? Est-ce qu'il faut être dans la surperformance, dans l'hyperperformance, dans le show, dans le spectacle? Voilà, parce qu'on a parlé jusque-là des bienfaits, et puis on a dit à quelques exceptions près, et à Dieu ne plaise, des gens perdent la vie, hein, de par ces pratiques qu'on ne recommande pas ici. Hein. Alors, est-ce qu'on peut résumer le sport? Je sais que c'est un peu exagéré. Un spectacle aujourd'hui, un show.
Le sport, c'est un spectacle d'abord, parce que c'est un véritable business, parce que le business, il est lié au spectacle. Les gens, ils entrent dans les stades, ils achètent des billets, ils regardent dans les télévisions payantes les matchs. Donc, il y a des millions de gens partout dans le monde qui suivent chaque année les compétitions européennes, les Champions League par exemple, parce que c'est les Big Five des championnats en Europe, c'est le championnat en Angleterre, en France, en Italie et en Espagne. Ce sont les cinq les plus puissantes au monde. D'accord. Et tout le monde les suivent de près.
D'accord, très bien. Alors maintenant, je souhaiterais qu'on... Maintenant qu'on a fait un peu la balance des choses et qu'on peut dire sans tarder que le sport a plus de bienfaits que de côtés qui suscitent la méfiance. Alors, comment rendre le sport, si tant est qu'on puisse résumer cette formule grecque qui a...
Comment le rendre attractif.
Comment rendre le sport attractif, le sport tel qu'on le recommande, hein? Pas le sport relatif au show et au spectacle. Sport de esprit sain, d'encore sain. Le sport à la façon grecque. Oui. Alors, comment le rendre attractif, le sport, aujourd'hui?
Donc maintenant, tu es convaincu que le sport est une réalité économique, et un catalyseur de l'économie du sport. Et d'ailleurs, le roi le qualifie d'un levier de développement économique. Ça, c'est bien. C'est pour faire du sport une filière économique, à part entière. Donc, plus il est un fait social et en plus c'est un unificateur de peuple, est un vecteur de valeur humaniste qu'il serait judicieux de prévoir quelques axes d'amélioration pour qu'il soit un peu attrayant et attirant. Donc, premier axe, c'est travailler sur la promotion du sport de masse, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, tout en couvrant tout le territoire. Parce qu'il y a, comme vous le savez, une disparité, une disproportion territoriale. Le sport ne doit pas être l'apanage d'une élite ou d'une région privilégiée sur le territoire national. Il doit comprendre tout le territoire. Parce que c'est dans les zones rurales qu'on peut trouver des athlètes plus talentueux qui ont des atouts par rapport aux villes. Puis, il faut revoir le cadre juridique régissant l'activité physique et sportive, notamment la loi 30-09, qui, d'après moi, c'est une loi molle présentant plusieurs lacunes juridiques du fait de l'absence de son caractère plutôt obligatoire. Parce que normalement, une loi est faite pour être appliquée. Cette loi-là n'est pas appliquée. Pour la simple raison, regardez ce qui se passe au niveau de la transformation des clubs en sociétés anonymes. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Donc, ces dispositions, il y a quelques dispositions, c'est-à-dire des textes d'application, qui ne sont pas encore vus le jour, jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il a été promulgué en 2010. Regardez, 10 ans, il y a quelques textes d'application qui ne sont pas appliqués. Donc, c'est une loi prolixe, capitonnée d'incohérences. Donc, il convient de souligner que cette loi, donc, à mon sens, elle est dépassée et ne cadre pas avec les exigences des statuts internationaux et du CIO. C'est-à-dire, l'État, donc, il veut vassaliser les clubs, c'est-à-dire les asservir et les considérer comme étant des annexes administratives des entités donc, à leur service. Et ce n'est pas ça. Donc, le mouvement sportif tel qu'il est, il est régi par le DAEL de 1958. Donc, qui organise les libertés individuelles collectives. Et donc, le mouvement sportif, ça, comme, si on peut le démontrer et le mettre en évidence pour que nos chers auditeurs et auditrices le comprennent, on commence par l'association sportive, puis le club, puis la ligue, puis la fédération, puis le CNOM. Donc, ce sont les composants du mouvement sportif. L'association sportive, c'est en bas d'échelle, le club, la ligue, puis on arrive à la fédération d'une discipline bien déterminée, que ce soit le foot, autre chose. Puis il y a le CNOM, le Comité National Olympique Marocain, qui s'occupe, qui représente d'abord le CIO à l'échelle internationale et qui veille à promouvoir la pratique sportive à l'échelle nationale, donc en veillant à investir dans la formation, le capital humain et la construction des infrastructures sportives.
Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire de votre réponse, mis à part qu'elle est bien organisée, elle est formelle. Vous avez répondu dans un cadre, peut-être vous avez fait allusion à une hiérarchie, à la façon de faire. Mais moi, je veux une réponse pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand je pose ma question, comment rendre le sport comme activité attractive, comment un jeune, hein, de notre âge ou peut-être moins, hein, pour ceux qui suivent, comment un jeune peut être intéressé par le sport? Comment, parce que vous savez, ça peut être un échappatoire, le sport. Ça peut être, on a parlé de distraction et de passe-temps, c'est très bien, mais ça peut aussi éviter le pire, le sport. Hein, au lieu que nos jeunes plongent, je ne généralise pas bien sûr, mais il y a toujours des bévues de jeunesse, il y a des sorties de route, il y a des jeunes que plutôt que de s'adonner à la drogue ou à d'autres activités malsaines, ferait mieux de cultiver leur corps et leur esprit. Alors comment justement, peut-être au niveau de la communication ou autre, à vous de me dire, comment rendre le sport comme activité attractif?
Oui, d'abord il faut repenser, c'est-à-dire la presse sportive, repenser le modèle de travail de la presse sportive. Au Maroc, la presse sportive ne s'acquitte pas de son rôle comme il faut. Regardez par exemple, en France, il y a plusieurs journaux qui traitent que du sport. Il y a des télévisions, des chaînes radio, donc qui traitent que des thématiques liées au sport. Donc ça, c'est un volet pour attirer nos jeunes à cette pratique-là. Il faut qu'il y ait de la presse sportive, une communication, tisser des partenariats public-privé et société civile, mobiliser donc les élèves, les enfants dans tout le territoire marocain autour de la culture sportive, parce que la culture joue un rôle très, très important pour que les jeunes s'y adonnent plus.
D'accord, très bien. Alors, maintenant qu'on a parlé de jeunesse, on va peut-être. Moi, j'ai un mot qui me saute aux yeux, qui fait partie de ma prochaine question. Je ne sais pas d'ailleurs comment je vais la poser, mais il y a le mot mode. Il y a le mot mode, le mot tendance. Tout ça, c'est la jeunesse. Je pense que la jeunesse est le plus à même de comprendre, d'être in, comme on dit, hein, si tant est qu'on puisse user du mot anglophone, être du côté de la mode et de la tendance. Alors, je vous ai dit une chose, je vous ai dit oui, le sport, s'il est si on peut le rendre attractif pour nos jeunes, grand bien leur fasse, hein, ça peut leur tirer. D'affaires, ça peut les tirer d'affaires, pardon, ça peut ça peut soigner, un peu corriger leurs écarts de conduite. Mais il y en a aussi, et je me dis que c'est peut-être une bonne chose, que même si que le sport est un effet de mode, ou bien que les gens le fassent pas pour ce qu'il représente, c'est-à-dire que pour le fait qu'il soit bon et pour le corps et pour l'esprit, ça c'est bien, ça c'est l'utilité première. Mais il y en a y en a qui pratiquent le sport rien que parce que c'est un effet de mode, hein. C'est les gens qu'on voit prendre leurs biceps en photo, leurs pectoraux. Comment vous expliquez ce phénomène? Puisque vous avez dit justement que le sport s'est creusé ou verse beaucoup plusieurs disciplines. Parmi ces disciplines, la sociologie. Alors, je ne sais pas quel regard peut-on porter sur le sport comme effet de mode. Est-ce que le sport est un effet de mode aujourd'hui?
Oui, on peut
La
dire ça.
façon.
Le sport attire autant les enfants que les adultes. Le sport n'a pas une catégorie d'âge bien précise. Et plus de ça, médiatisation de plus en plus forte, le sport est devenu un phénomène c'est un phénomène de société planétaire. Parce que nous vivons dans une société de consommation et tout le monde, il veut donc entretenir son corps pour paraître un peu attirant. Donc, et il y a aussi une autre stratégie des grandes sociétés qui s'intéressent à la pratique sportive. Donc, on commence à s'apercevoir une explosion des salles de sport dans toutes les villes, les grandes villes. Une chaîne, par exemple, City Club, Riyad Center, ce sont des chaînes, ce sont des grandes sociétés qui s'implantent partout parce qu'ils ont vu que le sport il a un atout considérable. Dans
D'accord.
l'avenir.
Moi, quand je vous ai posé, c'est l'avant-dernière question, si ma mémoire est bonne, ou bien plus, hein, quand je vous ai posé la question comment rendre le sport attractif, je me dis que peut-être dans le monde où nous vivons, il y a cette façon de, il y a une façon de faire un peu particulière, puisque j'ai parlé d'effet de mode, j'ai parlé de tendance, ce sont des choses qui correspondent à nos jeunes, ou bien qui sont plus à même d'attirer à eux nos jeunes. Et puis par là, même si ce n'est pas leur but premier que de pratiquer le sport, hein, les jeunes surtout, qui veulent être à la mode, qui veulent être à la pointe de la mode, qui veulent être un peu, comment dire, showy, ou bien être cet aspect,
Musclé.
je ne vais pas dire vantardise, je ne vais pas dire prétention, je vais dire, oui, to show off, je ne sais pas comment le mot en français ne me revient pas, mais vous avez compris, hein, ce à quoi je fais allusion. Mais je me dis que peut-être le monde d'aujourd'hui est assez intelligent et que la nature fait son chemin et que peut-être qu'elle est en train de préparer des jeunes, hein, qui soient à la fois forts, qui soient à la fois forts, qui soient à la fois bien adaptés pour ce que leur prépare la nature, etc. Et qu'on peut peut-être passer par je ne dirais pas mauvaise attitude, ou bien je dirais même par raccourci, mais par ce qui ne répond pas à l'utilité première qu'est de faire le sport, par la mode, par la tendance, comme quoi, voilà, la nature peut avoir des chemins un peu très détournés. Mais nous allons passer à vous avez évoqué tout à l'heure ce problème de dopage, hein, n'est-ce pas, quand
Oui.
on a parlé des bienfaits et puis des côtés négatifs du sport, et qu'il y en a qui s'administrent, surtout au niveau professionnel, hein, vous avez évoqué le cas du cyclisme. Alors, j'ai envie de penser à industrie pharmaceutique, hein, je parle dopage, et j'ai envie aussi comment dire, de scinder en deux le côté pro et le côté individuel, puisqu'il y en a de ces jeunes aujourd'hui qui se dopent aussi. Hein.
Oui,
Au moins peut-on dire
effectivement.
que, toute proportion gardée, que ces professionnels, s'ils se dopent, ben, ils sont peut-être un peu surveillés, hein, par leur coach, même si c'est des trucs qui sont illégaux, qui sont faits en cachette. Mais pour ces jeunes aujourd'hui qui se dopent, qui sont peut-être victimes d'une industrie pharmaceutique qui donne un fond dans le marketing, dans la communication. Alors justement, est-ce que ça fait les choux gras des industries pharmaceutiques, le sport aujourd'hui, de par ces produits qu'on vend partout, protéinés et autres, protéines, caséines, je ne sais pas.
Absolument, les grands laboratoires voient en sport leur manne financière, donc un atout considérable qui leur génère donc à peu près 30 milliards de dollars, le chiffre d'affaires chaque année. Donc, et les laboratoires qui sont les précurseurs sont ceux de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Donc c'est un chiffre colossal et c'est clair que le marché de dopage est toujours porteur, alors que le budget de lutte contre le dopage, c'est-à-dire le budget qui revient, qui incombe à l'AMA, à l'Agence mondiale antidopage, n'est que de 36 millions de dollars.
Ah, donc, d'accord. 30 milliards contre 36 millions,
oui,
quand même.
Oui, donc la lutte et la bataille semblent dès le début déséquilibrées.
Ah, d'accord. C'est un combat perdu d'avance.
Donc il y a toujours une longueur d'avance de 10 ans, de 8 ans de recherche scientifique.
D'accord.
Donc même si l'Agence mondiale antidopage trouve des substances, il ne peut pas déceler les autres les composants du dopage parce que ils ne peuvent pas s'identifier.
D'accord, très bien. Alors ma question qui suit allait porter sur la gouvernance. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que de passer à la vous avez fait un geste de la main,
oui,
donc j'attends.
J'aimerais ajouter une autre chose concernant le dopage, parce que le dopage, il a été pratiqué auparavant depuis l'Empire gréco-romain. Donc, il s'administrait aussi des types de viande, du cannabis, parfois. Et maintenant, c'est grâce à l'affaire Christie, une affaire c'est un scandale qui s'est déclenché en 1998, Fistina plutôt, en France. Il y a un barrage de gendarmes qui ont trouvé des substances chimiques de dopage chez un coach de sport et ses athlètes, donc dans le coffre de sa voiture. Mm-hmm. Et c'est à partir de là que le CIO, il a estimé nécessaire de créer une instance internationale capable de lutter contre et de combattre ce fléau. Et c'est en 1999 que cette agence mondiale antidopage a vu le jour.
D'accord. Alors, on vient d'apprendre Canada. Aujourd'hui, que, grâce à notre invité, que le dopage ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui et que ça vient pas comme ça, ça tombe pas du ciel et que ça remonte même au temps des Grecs et des Romains et que, comme quoi, l'homme a toujours cherché à se dépasser et que l'homme ne se suffit pas lui-même et qu'il est toujours à la quête quelque part du surhomme, n'est-ce pas ? Alors, la question qui suit, je pense que vous en avez parlé tout au long de notre émission. Hein, j'allais évoquer justement ce problème de gouvernance au Maroc. Alors, bien sûr que vous avez vos reproches, bien sûr que vous avez vos plaintes et qu'on a pu les entendre et en tirer profit tout au long de l'émission. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Quel est pour vous, parce que vous avez évoqué plusieurs points importants, si on peut... On ne va pas dire résumer, mais évoquer un seul point, un problème de gouvernance ici au Maroc, le plus grand que nous avons. Oui.
D'abord, il n'existe pas de démocratie interne au sein des fédérations. Il n'y a pas de la transparence, que ce soit la transparence organisationnelle ou financière. Il n'existe aucune communication, que ce soit ascendante, descendante, interne ou externe. Donc le public ne sait rien de ce qui se passe au sein de ces grandes instances. Donc, il y a aussi le partage de pouvoir. On a quelques dirigeants qui font la pluie et le beau temps. C'est-à-dire, ils décident de tout sans faire impliquer les autres, c'est-à-dire toutes les parties prenantes concernées. Donc, c'est un problème de taille. Il y a aussi l'absence de l'efficacité managérielle. Il n'y a pas le suivi, l'accompagnement, il n'y a pas le contrôle, l'État. Donc, il est le régulateur de ce secteur, mais il ne contrôle pas les grandes instances. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça, c'est un problème.
Vous savez, à vous entendre parler, moi, je tire une chose, ou bien peut-être que j'essaie de lire un peu en filigrane derrière ce que vous dites. Et je pense que Je ne sais pas si vous partagez mon avis, que le sport il s'est tellement institutionnalisé, le sport il s'est tellement éloigné du terrain, hein, de la pratique, qu'il ne répond plus aux besoins, qui ne verse pas dans le sens comment dirais-je, de l'utilité, du service et du. À vous entendre parler, sérieusement, je me dis que peut-être que le sport est devenu une affaire, est devenu un cercle fermé. Il s'est tellement théorisé, hein, si on veut revenir au problème de définition qu'on a évoqué quand je vous ai dit que quand on parle du sport, pour les gens, ça se pratique. Et là, à vous entendre parler, on risque de comprendre que le sport, ça se théorise, ça s'éloigne de la sphère. Alors que le sport, c'est pour, généralement, vous avez parlé du sport pour la masse. Généralement, c'est pour le peuple, c'est pour tout le monde.
Tout le monde, oui.
Et à vous entendre parler, on dirait que le sport devient de plus en plus chiffré, crypté, inaccessible à l'oreille commune. Je ne sais pas si vous partagez
Je partage largement votre idée, votre point de vue là-dessus, parce que il y a des enjeux derrière. Il y a des enjeux avec des milliards et des milliards de dirhams. Pourquoi vous voyez par exemple, qu'un président de fédération ne veut pas quitter son siège? Il veut toujours briguer des mandats et des mandats pour profiter du système, parce que le système, il ne contrôle toujours pas, et il y a des intérêts derrière, donc.
D'accord, je pense que votre réponse elle mérite d'être claire. Là, nous allons revenir à ce sport de masse, sport d'élite. Et moi, je me dis bien que le sport, hein, pour qu'il soit de masse et pour qu'il porte ses fruits, il vaut mieux, peut-être pourquoi pas, le commencer dès un jeune âge où on a un peu, comme on dit brièvement,
C'est
la
vrai.
cervelle un peu fraîche et qu'on est un peu permissif, hein, du bon sens, dans la bonne connotation du terme. Alors, quand je vous ai eu au téléphone, on a parlé du sport
Oui,
scolaire
c'est une question
et
très
c'était votre idée.
essentielle.
Et là, je reviens dessus, hein. Moi, j'ai fait un peu le raccourci pour parler sport masse, sport de masse, sport
D'accord.
scolaire. Je me suis dit, tiens, c'est un bon début, hein, pour le sport de masse. Alors, vous dites-nous pourquoi s'intéresser d'abord au sport scolaire?
Parce que c'est le tremplin et un levier de développement du sport national. C'est à l'école que l'élève, il prend goût au sport, il découvre les activités physiques, il découvre aussi son corps. Donc le sport scolaire au Maroc, donc il rencontre quelques problèmes parce que normalement c'est la base de notre système sportif. C'est les enfants, par exemple, dans les années 80 et dans les années 90. Comme Saïd Aouita, Nawal Moutawakil, Boulami, ils sont l'œuvre du sport scolaire. Ils étaient entraînés, encadrés par leur professeur de PS, puis à la faculté, ils ont continué. Il n'y a pas eu cette rupture entre l'école et l'université. Auparavant, le sport scolaire il se divisait en deux, le sport universitaire et le sport scolaire, c'est-à-dire lycée, pour inclure le lycée, le collège et l'école. Maintenant, il y a un déficit. Par exemple, regardez les écoles primaires, ils ne font pas de sport. Auparavant, on faisait du sport à l'école. Maintenant, non. Le sport, ça débute au collège et ça finit au lycée.
D'accord,
Il n'y a
d'accord.
pas. Et l'État, il veut lever sa main sur le sport scolaire par le biais des heures octroyées aux professeurs de PS à l'association sportive. C'est-à-dire, à chaque vendredi, donc les profs de PS, ils font de l'ASS au profit des enfants qui manifestent des talents sportifs, qui sont dévoués au sport pour obtenir des élèves talentueux capables de servir dans le sport national. Maintenant, non. Maintenant, c'est le sport civil qui influence parfois le sport scolaire dans les compétitions scolaires. En France, en Tunisie, en Europe, c'est toujours le sport scolaire, même aux États-Unis, qui influence et qui alimente le sport civil parce qu'il constitue un réservoir inépuisable d'athlètes.
D'accord, très bien. Alors, nous allons clore sur une autre question habituelle de l'émission. Nous allons vous demander trois messages ou trois questions pour nos responsables.
Donc, je vais me limiter au message. D'accord?
Allez-y.
Donc d'abord, pour développer ce secteur vital, à mon sens, il faut promouvoir le capital humain. C'est-à-dire assurer des formations de qualité des dirigeants et des cadres et aussi des athlètes. Il ne faut pas se contenter d'investir dans les infrastructures et oublier le capital humain, parce que l'élément humain est toujours au centre de tout développement, quel que soit son secteur. Ça, premièrement. Deuxièmement, il faut s'intéresser au sport scolaire, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, parce que le sport scolaire, c'est le socle de base de notre sport national. Et troisièmement, en fin de compte, il faut s'atteler sur la problématique de la gouvernance des clubs, des associations, pour éviter l'anarchie. L'anarchie qui règne à l'enceinte du mouvement sportif et accélérer le processus de transformation des clubs en sociétés anonymes.
D'accord.
Parce que regardez...
c'est un projet qui a pris 10 ans, selon vous, et plus.
C'est qui a pris 10 ans, alors qu'en Angleterre...
Qui a pris 10 ans, qui n'a pas encore mis...
En Angleterre, je vais vous surprendre. Ce processus-là de transformation des clubs en sociétés anonymes, il a commencé en 1923. Et en Espagne, c'est au début des années 90, en 1990. Tous les clubs en Espagne, ils se sont transformés en sociétés à action. Et en Allemagne, c'est en 1998. Donc on est en retard.
Donc c'est pas une invention du Maroc, c'est pas quelque chose qui soit propre
à
nous.
Il est excellent uniquement au niveau continental. Il a un peu de l'avance sur les pays donc limitrophes, les pays.
D'accord, très bien. Alors, Marouane Bouchéri, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Et c'était un plaisir de vous recevoir. Je pense que nos auditeurs, auditrices ont tiré profit de ces réponses que vous avez fournies et que nous attendrons toujours je ne dirais pas, peut-être aussi, oui, s'ils ont des remarques à faire, ou bien leur feedback, voilà, pour dire les choses en cours. Eh bien, merci encore une fois, et je vous dis à très bientôt.
Merci aussi pour votre invitation, ça fait plaisir.
Merci.